La réalité, c'est cool. Mais tu vas voir qu'avec les trois innocents qui s'en viennent, ça devient de la réalité augmentée. Es-tu prêt?
Bienvenue tout le monde sur la réalité augmentée édition Le Plateau, notre deuxième show plus centré sur les jeux de société. Je vais gagner ton animateur et avec moi cette semaine, Maxime Giguère.
Salut JB, salut tout le monde.
Bonjour, bonjour, bonjour. Cette semaine, on vient juste de se le dire un à l'autre là, de quel jeu qu'on est pour parler. Et tu es tombé sur un jeu que je possède aussi, donc je vais pouvoir t'appuyer dans ta critique, dans ta présentation. Mais toi, de ton côté, tu n'as jamais joué au jeu que moi je vais présenter. Moi, je vais vous parler d'un jeu qui est basé sur l'univers de H.P. Lovecraft. Donc, c'est un jeu qui s'appelle Les Montagnes Hallucinées. Il y a une nouvelle qui s'appelle Les Montagnes Hallucinées. C'est inspiré de cette nouvelle-là de l'auteur H.P. Lovecraft. Et on joue sur la thématique de la folie, d'une manière un peu différente des autres jeux de société. Vous allez voir, c'est bien, bien fun. Et toi, Max, tu vas nous parler de...
Seven Wonders Duel.
Seven Wonders Duel, qui est un jeu, comme son nom l'indique, c'est un jeu de duel, donc qui se joue à deux. Et les deux, on l'a acheté exactement pour la même raison, parce que c'est le fun des jeux à plusieurs, mais il y a des soirs de semaine, et avec notre conjointe, ben c'est le fun d'avoir des jeux à deux. Fait qu'on s'est chacun de notre part procuré ça pour exactement la même raison.
Et d'ailleurs, pour faire du pouce sur ce que tu viens de dire, j'ai aussi acheté The Game. Donc, une version en boîte qui est spécialement faite pour jouer à deux de The Game, le jeu que j'avais parlé la dernière fois.
Oui.
Et donc, c'est une mode qui semble être de plus en plus présente, justement parce que les couples, le soir, de semaine, c'est difficile de toujours inviter des amis. Donc, c'est pour ça que les jeux de duel.
Ouais, puis en plus, c'est des versions qui souvent sont un peu plus courtes aussi. Ça te permet de pouvoir bien caser ça un soir. Quand tu ne veux pas t'embarquer pour 4 heures de jeu, tu peux sortir juste ces versions-là de jeux à deux joueurs et que tu es capable d'avoir du plaisir. Moi, c'est une des affaires que je veux éventuellement même rajouter dans ma collection, c'est des jeux solo. J'aime bien jouer. Des fois, ma conjointe est moins enthousiaste que moi la semaine. Elle est plus fatiguée le soir parce qu'elle est enseignante avec des enfants du primaire. On s'entend, là, c'est pas la même demande énergétique que moi qui compose des textes sur un ordinateur. Là. C'est pas la même... Mentalement, c'est pas épuisant de la même façon. Fait que moi, le soir, je gamerais, tu sais, je ferais des board games, mais elle en l'embarquerait pas tout le temps, pas aussi souvent que moi je le souhaiterais. Fait que je veux éventuellement tester des jeux et acquérir des jeux qui se jouent en solo, donc pour pouvoir combler mon manque de board game quand ma conjointe ne veut pas embarquer. Ceci étant dit, Max, si tu le souhaites, je te laisserai commencer avec ta critique.
Bien, parfait. Seven Wonders Duel est un dérivé du jeu Seven Wonders, pour les ceux qui y connaissent. Personnellement, je n'y avais jamais joué. J'ai jamais joué au jeu d'origine.
Moi non plus.
Donc,
c'est vraiment pareil dans notre situation. Moi non plus, jamais joué.
J'ai un de mes collègues de travail qui dit que le jeu Seven Wonders, d'ailleurs, si on regarde la boîte du original, il est tapissé de prix. Ça a l'air que c'est mérité.
Oui.
Donc, ça va sûrement être un de mes prochains achats pour jouer en gang. Mais pour le moment, Seven Wonders Duel, beaucoup, beaucoup de prix qui ont été gagnés lorsque ce jeu a été sorti en 2015. Qui est toujours de bon augure quand on parle de jeux de société.
Mm-hmm.
Le but de ce jeu-là, c'est simple. Il y a trois manières de gagner, puis c'est un duel. La première manière, c'est une suprématie diplomatique. La deuxième, suprématie militaire. Et la troisième, c'est les points en fin de partie.
Comment dans le fond, l'équivalent d'une suprématie comme économique.
On peut voir ça ainsi, ouais. Oui. La manière que ça fonctionne, c'est qu'il y a un petit plateau qu'on installe. On met un jeton pour... le militaire et des jetons pour ce qui est du scientifique. Le côté scientifique, c'est des jetons, il y en a une douzaine dans la boîte, on en prend six qu'on met face visible. Donc ça, c'est des éléments qu'on peut aller chercher au fil de la game qui vont nous donner des avantages. je vais expliquer un petit peu plus tard comment on peut aller les trouver. Militaire, il y a des avantages à chaque fois que tu avances, quand tu franchis pour la première fois certaines étapes, c'est-à-dire que tu fais perdre de l'argent à ton adversaire. Et devant tout ça, on a une pyramide de cartes. La manière que ça fonctionne, c'est qu'il y a des cartes qui sont gratuites, d'autres cartes qu'il faut acheter avec des ressources. Et ça se passe. Donc, la première âge, habituellement, les cartes sont pas trop chères. Et juste un petit peu de complexité côté stratégique. C'est pas un jeu qui est 100% stratégique par le fait qu'il y a des cartes qui vont être face cachées dans la pyramide. Pour libérer une carte et la voir quand elle est face cachée, il faut absolument acheter que les deux cartes qui la recouvrent soient prises. Et là, on peut la retourner et voir ce que c'est. Il y a trois matières. En fait, il y a trois matières de base plus deux matières avancées qu'on peut produire dans notre ville. Parce qu'on se construit une ville avec les cartes. Alors, on a du bois, de l'argile et de la pierre comme ressources de base. Et comme ressources avancées, on a des parchemins et du verre. Donc, à partir de ça, on peut, tout dépendant de ce qu'on produit, on va nuire à notre adversaire. C'est-à-dire que lorsqu'on a besoin d'acheter une carte et qu'on n'a pas les ressources nécessaires, on peut échanger de l'argent pour acheter la ressource en question, pour acheter la carte. Par exemple, je produis pas de bois, j'ai une carte devant moi qui est une carte militaire qui coûte un bois. Si mon adversaire ne produit pas de bois, ça va me coûter 2 pour acheter la carte. Parce que c'est 2 pour 1. Par contre, si mon adversaire produit du bois, qui en produit 2, ça va être 2 plus le nombre produit par mon adversaire. Donc là, on tombe à 4 pièces d'or pour acheter un bois. Donc, des petites stratégies qui peuvent se développer autour de cette mécanique-là qui sont super intéressantes. Ce que je suis en train d'oublier, par contre, c'est les merveilles.
Oui, c'est vrai.
Les merveilles, on a chaque joueur va avoir 4 merveilles choisies au hasard. En fait, semi au hasard, on en vire 4. Le premier choisit, le second a choisi 2, la quatrième est donnée au premier joueur et après ça, on fait l'inverse, c'est-à-dire on en retourne 4 autres. Le deuxième joueur choisit la première, le premier joueur prend 2 et le deuxième joueur prend la dernière. Donc, au final, chaque joueur va avoir 4 merveilles de son côté qui va lui donner soit des points, soit des ressources, soit du militaire ou encore même des rejouets, ce qui est vraiment avantageux dans certaines situations. Par exemple, qu'on sait que si on peut rejouer à un tel moment, on va être capable d'avoir une carte supplémentaire qui nous est avantageuse. Pour construire une merveille, il faut sacrifier une des cartes du milieu et la mettre en dessous de la merveille pour indiquer cette merveille-là a été construite. Donc, on ne bénéficie pas de la carte qu'on est allé prendre. Et on paye le coût de la merveille et non de la carte. Donc, si la merveille coûte 3 bois, 2 pierres, il faut être capable de payer ce coût en ressources-là. Donc, ça, c'est vraiment la base en tant que telle. Il y a des cartes bleues qui sont des cartes qui sont strictement des points. Il y a des cartes jaunes qui vont donner des avantages tout au long de la game. Donc, chaque carte jaune qu'on accumule permet de sacrifier une carte pour avoir plus d'argent. Au début du jeu, si tu n'as pas de carte jaune, quand tu sacrifies une carte du milieu, tu dis « Bon, ben celle-là, je ne veux pas que mon adversaire l'aille et je n'ai pas les moyens de l'acheter. Je peux la sacrifier pour me faire 2 pièces d'argent. » C'est comme ça qu'on récupère de l'argent en tant que tel. Si on a des cartes jaunes, on accumule 1 pièce d'argent de plus par carte jaune qu'on possède dans notre ville. En plus de ça, les cartes jaunes peuvent donner des avantages incroyables. C'est-à-dire, acheter un bois pour 1$ en tout temps, peu importe ce que ton adversaire fait comme production. Produire soit un bois, soit un argile ou une pierre. On choisit lequel des trois on a besoin. Et même donner des points.
Fait que, grosso modo, c'est que ce qu'on parlait, là, la pyramide, là, ça c'est pour le premier âge. Il y a 3 âges, la forme est un peu différente. C'est que au fur et à mesure, on va acheter des cartes qui vont venir garnir notre capacité en termes de ressources. Fait que ça s'additionne. Donc, oui, les prix augmentent, mais normalement, ce que tu as comme cartes, ce que tu as comme ressources, ben ça vient suivre un petit peu cette courbe-là de monter en puissance. Donc, c'est pour ça que tu sais, on parle d'acheter des ressources, mais c'est parce que tu en acquiers aussi avec tes cartes au fur et à mesure.
En effet. Un des éléments, une fois que chaque âge se termine, c'est la personne qui a le pion de militaire de son côté à lui qui va commencer la prochaine âge. Si le pion est au milieu, c'est la personne qui vient de terminer de jouer qui va recommencer le nouvel âge. Tout simplement. Donc, s'il y a une suprématie, soit militaire ou scientifique, la partie se termine immédiatement. Sinon, on finit les trois âges. Pour qu'une suprématie scientifique se produise, il faut récupérer 6 des 7 symboles différents qui vont apparaître soit sur des cartes ou des jetons scientifiques. Pour les jetons scientifiques, il faut accumuler 2 symboles scientifiques identiques dans ces cartes vertes pour être capable d'aller en prendre une. Et là, on peut avoir le choix dans les 6, dans les 5, excusez, c'est 5, qui sont face visible. Donc, ils ont chacun des avantages, j'expliquerai pas tout parce que ça va être trop long. Et de toute façon, ça va être ennuyant. Ceci étant dit, un des éléments qui est vraiment, vraiment, vraiment plaisant, c'est la rejouabilité de ce jeu-là. On n'a pas toujours les mêmes merveilles. Il y a toujours 3 cartes par âge qui ne seront pas utilisées. Donc, on brasse le paquet de l'âge 1, on discarte 3 cartes et ensuite, on fait la pyramide. Donc, les cartes seront pas toujours les mêmes. Et la pyramide ne sera jamais pareille ou à peu près, à part si tu es vraiment chanceux et que tu as brassé exactement la même chose. Mm-hmm. Donc, ça vient tout le temps changer des petits twists et tout dépendant comment tu fais ton tour, avec les cartes rejouées, par exemple, pour les merveilles, j'ai réussi à faire un tour où j'ai joué 4 fois de suite parce que j'avais 3 merveilles qui avaient l'élément rejoué dessus. Ce qui m'a permis de vraiment monter mon jeu en puissance pour venir gagner la partie par la suite. Donc, il y a ces petits éléments de stratégie qui sont vraiment intéressants en tant que tels. Puis sinon, il y a quelques petites gimmicks au fur et à mesure. Je vous laisserai lire les règlements parce qu'il y a quand même beaucoup de petits symboles à apprendre, à connaître pour être capable de bien jouer, d'avoir une bonne stratégie envers le jeu. Ceci étant dit aussi, il y a une extension qui s'appelle Pantheon que je m'en vais acquérir dans la prochaine journée.
Ah oui, ok.
Il vient tout juste d'arriver au Imaginaire, donc je vais tenter de l'acquérir demain ou après-demain. Puis, ça a l'air que, je sais pas si tu l'as, toi, JB?
Non, je l'ai pas, j'ai juste la version de base. J'ai pas beaucoup d'extensions de jeu, il y a à peu près juste Catan que j'ai acheté des extensions, parce que quand ça fait 10-15 ans que tu joues au même jeu, ben, t'as le goût d'un renouveau.
ouais, je comprends parfaitement. Par contre, ce que j'ai eu comme commentaire de mon collègue de travail qui est un fan fini de jeux de société, et quand je dis fan fini, il y en a une centaine chez eux, puis il continue à faire un roulement. Il est rendu qu'il vend même des bons jeux de société parce qu'il manque d'espace. Ça te donne une petite idée.
Oui.
Il me dit, l'extension Pantheon, achète-la à tout prix. Ça change complètement la dynamique du jeu. Donc, le jeu de base est à 40$. L'extension est 30$. Donc, oui, ça fait un investissement de 70$ si on les achète les deux en même temps. Ce que je conseillerais, par contre, c'est de prendre le duel normal en premier lieu. Faire quelques parties, quelques semaines pour vraiment comprendre le jeu, comprendre les stratégies qui entourent le jeu, et ensuite aller prendre l'extension comme j'ai fait. Comme ça, le coût, 1, est réparti. 2, on apprend vraiment le jeu avant de mettre de la complexité par-dessus. Fait que pour les explications, c'est pas mal ça. Moi, personnellement, j'ai adoré le jeu. Ma blonde aussi. Je l'ai acheté en cadeau pour elle, pour sa fête, puis on y a joué quasiment pendant une semaine à tous les soirs.
Oh, OK, quand même.
Elle a vraiment, vraiment adoré ça. Elle aimait le côté vraiment un peu hasardeux des cartes qui sont face cachée, le petit côté stratégique de comment que je prends les cartes de la pyramide pour arriver à mes fins, mm-hmm. et le fait que chacune des pyramides des âges est différente. Donc, tous ces petits éléments-là ont fait que ça agrémente beaucoup une partie. Puis, on avait plus qu'on jouait, plus qu'on était capable de faire de points. À notre 4 ou 5e game, on a fait quasiment le double de notre première parce qu'on comprenait davantage les gimmicks, comment se rendre à des points. Il y a des parties qui étaient inégales, mais d'autres qu'on a fini à 5 points de différence.
Mm-hmm. Moi, c'est ça que je trouve... J'adore le jeu. Là. Je le trouve vraiment le fun à jouer. C'est juste que quand on arrive à la fin d'une partie, là, toutes les cartes, toutes les pyramides, c'est tout terminé. Tu sais pas qui a gagné. Tu peux avoir une bonne idée si... tu peux le savoir si c'est par le militaire, exemple. Là, tu vas le savoir. Si c'est par le scientifique, tu vas le savoir aussi. Mais si c'est par les points, c'est qu'il y a comme un... Ça va bien. Ça roule. Tu as l'impression que ta game va bien. Tu n'as pas d'empêchement. Puis c'est finalement un peu le décompte des points qui vient décider si tu as gagné ou non. J'aurais aimé que dans la mécanique, tu aies quelque chose qui fasse en sorte que soit tu es plus au courant de ton avancée par rapport à l'autre ou que la victoire se passe dans le jeu au lieu d'être à la fin de 15 minutes de calcul sur ton téléphone. Genre.
En fait, j'ai pas eu de problème tant que ça, moi, à être capable de calculer les points de mon adversaire versus les miens. C'est long, oui, il y a beaucoup de choses à calculer, ça je suis d'accord, parce que chaque type de carte peut avoir des points, les jetons scientifiques donnent des points aussi, les merveilles donnent des points. Donc, mais en général, j'étais capable de savoir, d'avoir une... j'ai à peu près 60 points, on en a à peu près 55, si je fais ça. Donc, si on prend le temps de faire du power gaming, comme je l'appelle si bien, on est capable de voir le nombre de points de l'adversaire. Certain que c'est beaucoup plus compliqué que certains autres jeux où est-ce que c'est clair, net et précis qui gagne parce que ben il y a la map au complet.
Mm-hmm.
Donc, c'est sûr que dans cette situation-là, c'est facile à voir. Là, c'est plus de calculs mentaux, c'est plus de regarder est-ce que j'ai fait des bons choix pour réussir à me rendre. Et je devrais être capable parce qu'elle a fait une erreur là, par exemple, au début, puis ça va l'annuler le restant de la game.
Mm-hmm.
Oui, je comprends ton point, par contre, qu'il y a
mais c'est peut-être
éléments à calculer.
Ouais, c'est peut-être moi, là, je suis pas un gros, tu sais, calcul mental et toutes ces affaires-là. Fait que je joue juste comme « Ah, OK, ouais, j'ai besoin de ça. » Genre dans l'immédiat, au lieu de me dire « Ah, ça va me donner les points que j'ai de besoin. » Puis, tu sais, on parle de pyramide, t'as une rangée qui est ouverte, l'autre rangée qui est fermée, l'autre rangée qui est ouverte. Puis là, je le sais, moi, mettons, là, que je veux la carte de, mettons, à gauche, troisième rangée qui est ouverte. Mais là, faut que je me libère mon chemin. Mais je me ramasse tout le temps que c'est ma blonde qui finit par l'avoir parce que je suis pas capable de prévoir trois coups d'avance pour faire en sorte qu'elle me débloque ce que j'ai de besoin. En tout cas, fait que c'est moi. Je suis peut-être juste pas assez stratégique pour aller chercher toute la saveur qu'il y a à aller chercher dans ce jeu-là. Mais comme je t'ai dit, je l'adore malgré tout. Là. Malgré cet aspect-là, je l'adore ce jeu-là.
Mais un des éléments justement que tu viens de mentionner, c'est qu'il y a deux manières d'y jouer. Et la manière vraiment stratégique qui est un petit peu plus power gamer, ce que je suis en partie, pas contre ma blonde parce que sinon c'est dommage parce que je vais prendre plus de temps à faire un tour puis je vais être capable de un peu manipuler la partie pour me rendre à mes fins, ce qui est plate quand tu veux avoir juste du gros plaisir avec ta conjointe une soirée puis que t'es meilleur qu'elle en stratégie pure. Mais il y a ta manière que tu jouais toi qui est je joue pour essayer d'avancer, d'aller vers ma priorité à moi. Advienne que pourra, on a du plaisir. Puis même si je perds, j'ai du plaisir au final.
C'est
un des éléments que j'aime de ce jeu-là. C'est pas comme Catan ou est-ce qu'il faut que tu sois tout le temps stratégique, sinon tu tires dans le pied puis tu seras plus capable d'avancer. Là.
Ouais, non, j'avoue. C'est juste que peut-être que c'est le type de stratégie ou l'habitude qui fait en sorte que je le sens plus dans Seven Wonders Duel. J'ai moins joué qu'à Catan. Toi, à l'inverse, tu as joué plus souvent à Seven Wonders qu'à Catan. Donc, peut-être que ton impression de l'impact de la stratégie sur le plaisir de jouer est inversée par rapport à moi. Fait que ça veut dire que c'est peut-être juste une question de goût aussi. Là. Puis tous les goûts sont dans la nature, c'est bien correct.
Oui, je suis d'accord avec toi sur ce point-là, sur le fait que la stratégie... Moi, je suis quelqu'un de très stratégique dans la vie. Donc, chaque jour, quand je vais au boulot, j'ai mon plan de qu'est-ce qu'il faut que je fasse pour m'arriver le plus vite possible à mes fins. C'est bon. Mon employeur adore ça parce qu'il sait que je suis optimal sur ce que je fais quand je travaille. Mais dans un jeu où est-ce que mon but, c'est d'avoir juste du plaisir, parfois, ça me nuit parce que ben quand tu gagnes tout le temps, ça a l'air que ta conjointe aime moins ça.
Ça se peut. Avais-tu d'autres choses par rapport à Seven Wonders? Des trucs que tu voulais expliquer? Je pense qu'on a fait pas mal le tour. Le Seven Wonders, tu as mentionné que chacun avait quatre merveilles, sauf que le maximum qui peuvent être joués, c'est 7. Donc, ça veut dire qu'il y en a un qui peut en avoir juste 3 au maximum. Ça, on ne l'avait pas mentionné. J'essaie de voir si tu as échappé des choses. Je pense pas, là. Je pense que tu as fait un bon tour, là.
Ouais, ça fait un bon topo.
Ouais. Donc, écoute, va falloir que tu nous reparles, par exemple, de Panthéon, parce que moi, je ne l'ai pas. J'y jouerai probablement pas avant que toi, tu puisses nous en faire une mention sur le show. Donc, reviens-nous pour la suite là-dessus. Là. Moi, ça m'intéresse bien, bien gros.
Ça va me faire plaisir. Cool. Comme je t'ai dit, je vais essayer de le lâcher dans les prochains jours. Donc, moi aussi, il m'intéresse.
On lui donne-tu une note à Seven Wonders?
Oui, avec plaisir. Ça, pour moi, c'est une très, très forte recommandation pour les couples qui veulent avoir du plaisir ensemble, les soirées et qui aiment les jeux de société, évidemment. Pour cette raison-là, j'y donnerais un gros 9 sur 10.
Cool. Moi, je vais y aller avec un 8. Puis c'est probablement juste notre appréciation du type de stratégie qui vient influencer. Mais comme je te dis, j'adore le jeu aussi. Donc, c'est clairement une recommandation. Et... tu sais, les jeux de société, il y en a des grosses, grosses boîtes. Là. Celle-là, c'est une petite, petite boîte, mais il y a beaucoup, beaucoup de plaisir à l'intérieur. Fait que, n'ayez pas peur. Moi, je vais y aller avec un jeu avec une plus grosse boîte, Les Montagnes Hallucinées, qui est un jeu qui est un peu particulier parce que souvent, dans les jeux de société, tu vas avoir des jeux qui sont plus pour les joueurs avancés. Les joueurs qui, tu sais, un peu comme toi, là, qui trippent sur la stratégie, qui, tu le sais que tu joues pas avec à ces jeux-là avec des gens qui n'ont jamais joué à des jeux de société. Tu vas y aller avec des trucs plus de base. Comme je comptais dans le dernier show du plateau, habituellement, j'utilise Catan pour faire ça parce qu'il vient présenter des mécaniques de jeu de manière assez simpliste, assez structurée. Il n'y a pas 8000 stratégies que tu peux utiliser. Il y en a 4-5, puis tu y vas avec ça. Ça te donne une belle porte d'entrée pour pouvoir aller vers du board gaming plus avancé. Les Montagnes Hallucinées, ça, c'est un peu le contraire. C'est que, en fait, l'autre catégorie, c'est les jeux qui sont plus de party. Tu vas avoir des jeux que c'est trouver des noms de que tu as mis là, un écriteau dans le front de la personne. Il y a des jeux, les jokes de père, je sais pas. Les
jokes de papa.
Jokes de papa. Tu sais, des jeux comme ça, tu fais comme. T'es une gang, il n'y a personne qui sait jouer à des jeux de société, il n'y a personne qui est habitué à ça. Tu te pognes ça, c'est sûr que le plaisir va être là, mais tu n'as pas besoin d'être un fin stratège. C'est souvent une mécanique hyper simple, mais qui fonctionne quand tu es un grand groupe. Le fun est là, puis merci, bonsoir. Les Montagnes Hallucinées réussissent à faire quelque chose qu'il y a très, 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 très peu de jeux qui sont en mesure de faire, soit d'être un board game pour les joueurs que je dirais plus avancés, qui sont des tripeux de board game, de carrière, entre guillemets, là, qui ont fait leurs recherches, qui en ont joué plusieurs, c'est pas leur premier barbecue. Là. Et un jeu de party. Ils ont été en mesure de mixer ces deux catégories-là de façon vraiment incroyable.
Tu m'intéresses?
Ah, écoute, puis je l'avais amené. C'est juste que quand on s'est croisé la dernière fois, je l'avais amené. C'est juste que ça n'a pas donné. On était moins dans le mood. Mais dans un party, ça joue jusqu'à 5 joueurs, là, pour vrai, le gros fun. C'est vraiment intéressant. Je t'explique un petit peu la prémisse de base. On est dans l'univers de H.P. Lovecraft, où est-ce que c'est un univers où est-ce que tu as des créatures maléfiques, tu as beaucoup la présence de la folie dans ces univers-là. Les jeux qui sont basés sur des nouvelles de H.P. Lovecraft sont souvent extrêmement sombres, où est-ce que gagner, c'est vraiment pas facile. Et ça va être le cas encore dans Les Montagnes Hallucinées. C'est un jeu qui est pas facile à gagner, sauf qu'au lieu d'y aller avec des tensions, avec des personnages qui sont hyper faibles contre le jeu. C'est encore le cas, mais ce n'est pas une atmosphère qui est lourde. C'est complètement le contraire. Nous campons le rôle d'une gang d'explorateurs qui ont découvert une chaîne de montagnes dans l'Antarctique. Et dans cette chaîne de montagnes-là, il y a des traces d'une ancienne civilisation hyper avancée en termes de connaissances. Il est disparu, mais on a la chance d'aller trouver des artefacts qui vont avancer l'humanité. Des découvertes comme ça, ça n'existe plus. Et nous, on part, notre gang de 3, 4, 5 explorateurs en avion et on se rend sur le bord des berges au pied des montagnes. Nous avons, encore une fois, c'est une pyramide. Je ne sais pas si, si tu vas t'as regardé pour trouver des visuels des montagnes hallucinées. Tu vas retrouver un petit peu la pyramide de cartes qu'on a dans Seven Wonders Duel. Chacun des lieux, c'est vraiment en pyramide, là, comme une forme de montagne. Et plus ça va aller, plus des défis vont être grands. Tu as des cases qui sont en rangée, qui sont représentées par des petites tuiles. Et chacune de ces tuiles-là vont demander, pour être remplies, pour être remportées, de remplir des conditions. Ces conditions-là, ça peut être de l'équipement, ça peut être de l'armement, ça peut être du courage. Il y a 3-4 types de ressources que tu peux utiliser. Et on va te demander d'en accumuler entre, mettons, 6 et 8. Ça pourrait être de l'armement, entre 8 et 9 de ressources. Et chaque joueur va avoir des cartes de ces différents types de ressources-là. Et l'objectif, pendant le 30 secondes du chronomètre, quand on tourne une tuile, pendant le 30 secondes, ça va être de réussir à communiquer entre les joueurs pour arriver à remplir les conditions des tuiles. Si tu réussis, tu as le bonus qui est associé avec la tuile. Ça peut être des équipements ésotériques qui sont des équipements hyper puissants. Ça peut être des artefacts, justement. C'est ce qu'on tente d'aller chercher dans les montagnes hallucinées. L'objectif, c'est de ressortir de la montagne avec plus d'artefacts que de blessures que les joueurs ont subies dans le cadre du jeu. Ça semble simple. Tu vires une tuile, tu as des chiffres, tu dois remplir les conditions. Ben, tout le monde, on est capable de jaser, on est capable de se dire qu'est-ce qu'on a, puis en 30 secondes, on a réglé le problème. Là. Je fais des petites maths simples. Le problème, dans les montagnes hallucinées, c'est que quand on est dans le laps de temps où est-ce qu'on peut jaser de ce qu'on a entre nos mains pour remplir les conditions, entrent en jeu les folies. Les folies se retrouvent être des éléments qui vont venir perturber notre capacité à communiquer de façon claire avec les autres joueurs. Tu as des folies de trois niveaux, niveau 1, 2 et 3, qui vont aller en augmentant. Ces folies-là, pour citer des exemples, ça peut être de, admettons, toi, Max, tu es en train de jouer, ta folie serait que tu ne peux plus dire « je ». Faut que tu dises « tu » à la place. Essaye okay. de dire « hey, moi, j'ai... » Non, tu peux pas. « Tu as 3 de telle affaire. » Ça vient complètement mêler ta façon de communiquer avec les autres. Dans ces 30 secondes-là, ça, c'est une folie que toi, tu as. Mais moi, j'ai joué une partie avec ma blonde puis un couple d'amis. Ben, un de mes amis, lui, pour pouvoir jouer, fallait qu'il mette ses cartes à l'envers. Donc, face visible vers les autres, mais pas vers lui. Une autre personne, il faut qu'elle ait sa main devant sa bouche. Fait qu'il manipule ses cartes avec juste une main. Il peut dire tout ce qu'il veut, mais il n'est pas capable de manipuler ses cartes. Toutes ces folies-là, j'en ai pas ni une, c'est faut que tu te retrouves, faut que tu quittes la table et que tu te rendes dans le coin le plus éloigné de la pièce. Dans ton laps de temps de 30 secondes. Hey, moi j'ai telle ressource! T'es à l'autre bout de la pièce. Donc on vient vraiment mixer le gaming plus cérébral, plus de joueurs plus expérimentés avec une mécanique de jeu, des folies, qui est plus de party. Parce que c'est clair que les 3-4 premières fois là, que tu as une nouvelle folie d'une personne, tu fais comme, ben voyons, comment qu'est-ce qui se passe? Et des fois, tu ne le remarques pas, tu comprends pas. Le tu à la place du jeu, là, je te jure, ça prend un bout de temps avant que tu comprennes que la personne, elle dit vraiment pas bonne affaire. C'est tout inversé ce qu'elle te raconte.
Donc, ça doit être vraiment, vraiment intéressant. Ça a l'air d'être vraiment un jeu qui est fait pour être gros fun.
Ouais.
Vraiment.
Ouais, c'est vraiment intéressant de ce côté-là. C'est pas un jeu qui est parfait, OK? On va s'entendre. Faut beaucoup faire d'épreuves avant d'être en mesure de réussir à accumuler ce qu'on a de besoin. On rate régulièrement des épreuves. C'est un jeu qui est difficile. C'est bien normal, c'est dans l'univers de H.P. Lovecraft. Et c'est ce qui peut devenir peut-être un peu redondant dans le sens que les folies sont le fun, sauf qu'après, mettons, 8 épreuves, ben, t'as compris la mécanique de « Hey, j'ai une folie, on a tous des folies puis on n'est pas capable de se parler. » Donc, ça, le plaisir des joueurs de gagner contre le jeu peut être un peu miné par cette mécanique-là qui vient, d'un autre côté, faire tout le charme et l'unicité du jeu. Fait que c'est une balance qui est... Ça dépend des games. Si t'as vraiment toutes des folies qui sont dures, qui sont pas le fun pour la personne qui a vit, ça peut être vraiment plus négatif. Sinon, ça peut être des folies super le fun, puis c'est vraiment drôle, puis là, t'as le gros fun sale. T'es vraiment à la merci des types de folies que tu as. Et du type d'épreuve, puis si tu as les ressources. Je n'irai pas plus profondément là, dans les mécaniques. Là, pour vrai, il faut le creuser. C'est vraiment l'aspect fun versus un jeu plus profond de board game. Moi, j'ai adoré mes expériences quand on a fait des parties de ce jeu-là. C'était une méchante belle découverte. C'est un couple d'amis qui, à un moment donné, ont débarqué. « Hey, quand c'est pour ta fête? »« Qu'est-ce que c'est ça? » Je ne suis pas supposé, là. Vous n'êtes pas... Non! Pas supposé de me faire les cadeaux, mais c'était un méchant beau cadeau. J'étais très, très content. On a joué une couple de parties, puis à toutes les fois, j'ai eu du gros fun. Mais je peux percevoir que à la longue, avec certains types de joueurs, que ça ne fonctionnerait pas, que le party ne lèverait pas et que le plaisir ne serait pas au rendez-vous.
C'est donc, pour toi?
C'est donc un pensez-y bien. Oui, vas-y.
Question pour toi sur les tours. Est-ce que je t'en dois regarder, moi, les images en tant que telles. Donc, les visuels que nos auditeurs devraient aller chercher. Donc, il y a des tours. Tu disais que les folies, est-ce qu'ils s'additionnent tout le temps? Ou à chaque fois que tu prends une nouvelle tuile, c'est des nouvelles folies à chaque fois?
Les folies, tu vas en avoir une seule à la fois, mais elle peut augmenter de niveau jusqu'au niveau 3 où est-ce que là, t'es au maximum. Tu pourrais, par contre, avoir une folie de niveau 3 et être amené à la changer pour avoir une nouvelle folie qui t'incombe, je veux dire, qui t'attaque, là, que t'es pris avec, là. Fait que ça peut varier qu'est-ce qu'il y a dans le jeu. T'as des mécaniques, là, pour pouvoir te soigner parce qu'il y a un phénomène de blessure. T'as des pièces de courage que tu peux utiliser pour modifier les résultats de ce que t'as tenté de faire pour réussir les missions que tu devais affronter. Il y a plein de mécaniques comme ça qui viennent s'ajouter. Je vais juste pas aller dans le très, très profond parce que ça peut devenir quand même complexe à expliquer à l'audio comme ça. C'est juste de... Je voulais surtout vendre le concept de... Il y a un jeu de party pour des joueurs de jeux de société plus avancés qui vont triper à aller lire un livre de règlement, puis aller s'informer, puis établir des stratégies, puis creuser plus loin dans le gaming qu'une règle très simple de jeu de party plus habituel. Je voulais présenter cette option-là. Moi, j'ai eu beaucoup de fun. Les expériences, peut-être à la longue, peuvent devenir peut-être un petit peu plus redondantes. Donc, de varier les joueurs avec qui on joue, c'est peut-être une bonne option. Chose que, quand moi, j'étais plus jeune, là, je te parlais là, dans le premier jeu du plateau, j'étais avec une gang de chums, puis on achetait nos jeux en gang, tu sais. C'est probablement un titre qui serait parfait pour ça, pour pouvoir se l'échanger d'un party à l'autre, pour pouvoir jouer avec d'autres joueurs. Parce que si tu ne feras pas 60 games avec la même équipe de 5 joueurs de jeu-là, je pense que la durée de vie viendrait à m'amener, ça viendrait qu'à graisser pas accrocher, puis le plaisir ne serait plus autant au rendez-vous. Donc, c'est un pensez-y bien de ce côté-là. C'est un jeu qui a... écoute, faudrait que je fouille là, sur Amazon, là, ça ressemble à quoi en termes de prix là?
Je viens de trouver une extension, moi, à 70$, mais c'est une extension en tant que telle. Donc, c'est quand même un bon prix pour une extension, on doit se l'avouer.
Oui, c'est ça. Mais je ne sais pas qu'est-ce que ça donne comme élément supplémentaire. Donc, en tout cas, faudrait chercher là, pour savoir qu'est-ce qu'il y en a. Là, mais c'est un jeu qui est autour de 65-70$, certainement. Là. Je serais surpris qu'il soit en bas de ça de disponible. Donc, c'est un pensez bien. Je trouvais intéressant de présenter ce type de jeu-là. Éventuellement, on va tomber dans des types de jeux qui me font encore plus triper. Dans les deck building, ces choses-là, c'est des mécaniques qui sont plus peut-être difficiles, plus complexes à présenter à l'audio. Donc, je voulais tranquillement rentrer dans la thématique. Si j'avais à donner une note, moi, j'irais avec un 7 parce que j'ai eu toujours de bonnes expériences, mais je vois la possibilité que ce ne soit pas le cas nécessairement toujours. C'est un jeu qui est édité et distribué par Yello. I-E-L-L-O, qui habituellement, si vous voyez des belles boîtes de jeux, c'est des malades là-dessus. Leurs designs de jeux sont toujours super beaux. Et l'auteur, c'est Rob Davio. Donc, faites vos petites recherches avant de l'acquérir. Peut-être si vous avez une boutique de jeux qui vous permet de faire de la location ça serait peut-être une bonne idée. Moi, la boutique que je vais à Gatineau qui s'appelle L'As des Jeux, que j'adore, là, c'est à toutes les fois que je rentre là, je veux tout acheter. Là. Eux, ils ont ça, là, ils ont une section avec des jeux que tu peux louer. Donc, si vous hésitez, vous n'êtes pas sûr, l'option de la location, c'est peut-être la meilleure façon de le tester avant de l'acquérir pour voir si vraiment c'est pour vous.
Question rapide pour toi, c'est-tu écrit les contrées de l'horreur - les montagnes hallucinées sur la boîte?
Non, c'est vraiment les montagnes hallucinées seulement de Rob Davio et c'est une boîte qui est bleue.
Je trouve toujours un autre jeu qui se nomme pareil ou presque.
Ok.
Je suis pas capable de trouver le bon. Désolé. Je voulais pour nos auditeurs, mais je le trouve pas.
Ben, j'ai trouvé plein de sites en France. J'ai essayé sur Amazon.ca puis ils l'ont pas. Faudrait qu'on fouille. C'est la morale du soir, faudrait qu'on fouille pour avoir le prix.
En effet.
On va se le prendre en note les prochaines fois d'avoir les prix au Canada. Ça me semble que c'est une bonne information à donner. Hey, essaye ça, je veux là, mais je sais pas combien ça coûte. Arrange-toi avec ça. Montagne hallucinée, le Randolph, est-ce qu'ils ont le prix? Ou ils font juste présenter le jeu? L'imaginaire, vont-ils me donner le prix? Ah, 70$, c'est ça. Donc, boutique l'imaginaire à 70$. Ah, c'est des contrées de l'horreur. Fait que c'est pas le bon jeu.
Non, c'est ça, c'est celle-là que j'arrivais pas de trouver. Je trouve juste les contrées de l'horreur, les montagnes hallucinées, et non juste les montagnes hallucinées.
Ah, regarde, chez Randolph, il le présente à 55$, 54,99$. Mais il est en rupture de stock en ce moment. Fait que c'est peut-être pour ça qui fait que le prix n'est pas facilement
part
trouvable. Ouais.
C'est sûrement parce qu'ils sont entre deux impressions du jeu.
Possible. Et peut-être qu'ils vont ajouter l'extension à l'intérieur ou des choses comme ça. Là. Mais dossier à suivre. Donc, avis aux intéressés, peut-être plus une location avant de faire un achat, surtout à ce prix-là, puis la durée de vie sur le long terme qui est peut-être qui peut peut-être venir coincer un petit peu. Max, ceci étant dit, c'est ce qui fait le tour du plateau de cette semaine. On a bien fait ça. C'était plus smooth que la dernière fois. On s'apprivoise, j'aime ça. Si les gens veulent te retrouver, Max, ils font ça comment?
Sur Twitter, chercher Maxime Giguère, comme j'ai dit la dernière fois, @MoxMixMax, un petit peu compliqué. J'ai essayé de le changer, j'ai pas trouvé de quelque chose qui avait du sens encore. Je cherche toujours une manière de le changer pour un nom qui n'a pas 8 chiffres au bout. Donc, cherchez-moi. Vous allez voir que mon avatar, c'est un logo qui est un MG. Donc, ajoutez-moi. Ça va me faire plaisir de jaser avec vous sur des jeux de société, le design, l'informatique en général.
Cool.
Et toi, JB?
Moi, sur Twitter, @gangj_b, sur Facebook, JB Gagné. Mes autres podcasts, d'ailleurs, dans quelques instants, je m'en vais enregistrer un nouvel épisode de la POC avec mon chum Sylvain Rioux. On va parler des playoffs, du Canadien, plein d'affaires dans la Ligue nationale. Donc, la POC, c'est un podcast sur le hockey. Et aussi, ben, le magasin général. On fait des épisodes de manière plus impromptue, c'est moins régulier. Faut dire que mon comparse Nicolas Thibault est dans le gros jus sale. Pour ceux qui le connaissent dans la vie de tous les jours, vous comprenez pourquoi. Je vais laisser ça en suspens, c'est à lui de raconter sa vie, pas à moi. Fait que c'est ça qui est ça.
Donc, ça va être un bon sujet pour le prochain...
Sa vie à lui professionnelle, pas sûr qu'il veut aborder ça en podcast. Mais pas qu'il en a honte du tout. C'est juste que, puis je le comprends, il veut pas mélanger les deux choses. Et ça, c'est tout à fait normal, puis je le comprends parfaitement. Donc, c'est à lui de décider ce qu'il dévoile ou non de ses histoires à lui. Moi je m'ouvre, là, je vous raconte plein d'affaires, là, mais lui, s'il veut garder un jardin secret, tant pis pour lui. Donc, le magazine général qui est un podcast où est-ce que justement on raconte plein d'anecdotes, on parle de plein de sujets plus décousus les uns que les autres, mais je pense que c'est ce qui fait le charme de ce beau petit programme.
Je confirme.
Voilà, c'est ce qui fait le tour pour la réalité augmentée de cette semaine, édition Le Plateau. La semaine prochaine, si j'ai bien compris là, dans nos discussions là, sur notre groupe à nous autres, je pense que Luc fait un show techno, à moins que Jonathan et Daniel font un show...
God of War,
ouais, en tout cas, c'est ce qui s'en vient là, dans les airs, là, dans les deux prochaines semaines, c'est ce qu'il devrait avoir sur la réalité augmentée. Donc, d'ici là, ben, je vous souhaite du bon gaming, du gros fun sale, de la pop culture, des jeux de société, tout ce qui vous fait triper. Et nous, on vous dit à la prochaine fois. Bye bye!